mais on aura peut-être le sacerdoce très difficile de pénétrer dans les secrets de Dieu, parce que vous sentez bien qu'il faut essayer de voir, non pas ce que c'est que le sacerdoce, mais il faut essayer d'en faire l'expérience, pour le connaître, alors pour faire l'expérience vivante de ce que c'est que Jésus prêtre, bon, et puis aussi du fait que nous, on n'est pas seuls, fermés sur nous-mêmes, entièrement isolés en nous-mêmes, repliés sur nous-mêmes, concentrés sur nous-mêmes, hein, morts en nous-mêmes, ça peut être la même chose, mais nous sommes des médiateurs. Nous sommes des êtres de relation, d'amour. Le sacerdoce, c'est pour nous faire, c'est par excellence le secret, la clé pour voir qu'on est amour, qu'on est fait pour l'amour, qu'on est couronné dans l'amour, qu'on est né dans l'amour, et pas dans n'importe quel amour en plus, dans toutes les sortes d'amour. C'est ça, le sacerdoce, c'est de savoir comment Jésus a fait. On regarde comment Jésus a fait, on connaît Jésus. On est capable de naître à notre vie, à notre vocation. À cette espèce d'inspiration première qui fait que j'existe. J'existe dans le temps. Mais j'existe quand même à partir de quelqu'un qui m'aime dans l'éternité. Dieu est présent, puisque j'existe dans le temps. J'existe. Tout ce qui existe. Le monde existe, l'univers existe. C'est tellement extraordinaire de voir ça. J'existe. Une chose quelquefois qui n'est pas toujours très intéressante, qui rate souvent, c'est ce qui sort de moi. Mais ce qui sort de moi, quelquefois je fais des choses qui ne sont pas tout à fait extraordinaires. Je n'ai pas toujours des inspirations fabuleuses, hein, des réactions parfaites. D'ailleurs, elles n'ont jamais parfaites. C'est toujours raté. La vie a toujours un petit côté mensonger, hein, un petit côté illusoire, hein, un petit côté de trouble, de vague. C'est nébuleux, hein. C'est pas très consistant, la vie. Mais le fait d'exister, c'est extraordinaire. Et en tout cas, ça vient pas de nous. Ça vient pas de la nature. La nature existe. J'existe. Ça, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on sent, on sent très bien, si on se réveille un peu, qu'on ouvre les yeux, j'existe. L'autre qui est là à côté de moi existe. C'est vrai, j'existe. D'où ça vient, ça? Bon, ça, c'est parce que Dieu, ça vient de l'éternité parfaite de Dieu. C'est vrai, il y a quelque chose, ça vient de l'amour. Il faut reprendre ça souvent, vous voyez. Je crois pas que ce soit possible de connaître, de naître à de naître à la vérité, j'allais dire, sur l'homme, sur moi, sur mon origine, sur ma vocation à l'amour, sur la grâce que Jésus m'a surabondamment surmultipliée à la croix et à la résurrection, pour la surmultiplier en moi, parce que le péché en moi rend 100 fois plus difficile, 10 fois plus difficile, pardon, le fait d'être dans ma vocation. Alors du coup, au centuple, il donne 100 fois plus de puissance, n'est-ce pas, et pour surmultiplier, c'est en faire l'expérience de faire l'expérience de moi-même, faire l'expérience de ce que Jésus fait, de ce que la grâce qui m'est donnée en surabondance fait dans dans sa transformation, dans son efficacité, dans sa fécondité. Pour en faire l'expérience de ça, il faut rester en présence de Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire. Il faut qu'on reste en présence de Dieu. Dieu est là. Et si j'existe, ça ne peut pas venir de moi. Ça, il faut vraiment être très humain. Il ne faut pas trop redescendre souvent dans l'inspiration, dans le sensible, dans le sensitif. Pas trop. Il faut être équilibré en tant qu'homme. Il faut être, plus exactement, harmonisé. Donc c'est bien si on vit du sensitif, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait cette finalité, cette pointe. Il faut être aussi contemplatif. Il faut se servir de la dimension, j'allais dire, la plus élevée de sa nature humaine. J'ai une identité métaphysique, naturelle. Et je suis appelé à aimer dans le temps et dans l'éternité. Ça, c'est sûr. Et à rouvrir les yeux et à voir que je suis libre, que je suis capable d'aller infiniment, et ça, ce qu'on peut en dire, infiniment, au-delà de toutes mes capacités d'inspiration, au-delà de tous mes projets. Puis l'abandon total pour la plénitude totale. Et on démarre dans ce fait que c'est en effet non pas mon père ni la nature qui est mon père, mais c'est Dieu qui est mon père. Dieu est mon père. Dieu. Et si j'existe, c'est parce que Dieu est mon père. Dieu est mon père parce que il me connaît. Dieu me connaît, et Dieu pense à moi, et Dieu m'aime. C'est parce que, donc, il pense à moi, qu'il m'aime. La rencontre de la pensée de Dieu. Dieu pense mon identité, mon être, et il aime cet être qu'il pense, et c'est ça qui fait que j'existe. Ça ne suffit pas de faire un jugement d'existence. J'existe. Ça ne suffit pas de voir que je suis suspendu à la créateur de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cet acte créateur de Dieu. Vitalement. La créateur de Dieu, c'est que Dieu me connaît. En ce moment, il me connaît. Et il pense à moi. Et c'est ça qui fait que j'existe. C'est pas parce qu'il dit, allez, existe. On s'en foutrait complètement. À moi. C'est le fait qu'il pense à moi et qu'il est attiré par cet être-là, moi. C'est ça qui fait que j'existe. Donc Dieu est là. J'existe, donc Dieu est là. Dieu m'aime. Dieu m'aime, je suis. Dieu est avec moi. Je parle, Dieu parle avec moi. J'aime, Dieu est en moi. Je travaille, Dieu est là. Dieu aime avec moi. Tout ce que je fais avec Dieu. Ah oui, mais que c'est pas toujours facile. Alors à ce moment-là, oui, d'accord. Mais Jésus aussi. Jésus, Dieu m'a donné son Fils. Il est mort sur la croix. Il est à la droite du Père. Il est dans le Père. Et vous comprenez? Et donc maintenant, Jésus me crée aussi. Jésus, un homme. Jésus me crée, Jésus ne pense qu'à moi à partir du moment où il est prêtre. Et c'est parce que Jésus pense à moi, et il me contemple, et qu'il m'aime, qui fait que mon existence devient brûlante. Et si mon existence, j'allais dire, est réveillée, c'est uniquement parce que Jésus pense à moi et qu'il m'aime en ce moment. Et je me touche, et je pense, je vois que j'ai soif. Alors à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que j'ai soif? C'est uniquement parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est dans le Créateur. Et qu'il est le Créateur avec le Père. Et donc c'est un homme qui est là et qui fait que c'est le corps glorifié d'un homme dans la très sainte, dans le Saint-Esprit. Si Jésus, vous voyez, de voir qu'en ce moment, dès que je prends conscience de moi-même et que je veux aller jusqu'au bout de ma vocation, de toutes mes potentialités, de toutes mes aspirations métaphysiques, spirituelles et vitales, c'est en raison du fait que Jésus est là. Ça n'existerait pas, si je puis dire, si Jésus ne me recréait pas, ne me crée pas actuellement, dans une recréation actuelle avec le Père. Si Jésus n'était pas ressuscité, si ce n'était pas incarné, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait pour chacun d'entre nous? Pour ceux qui sont athées, comme pour ceux qui sont chrétiens. Il se passerait, il y a quelque chose qui a changé, vous savez, quelque chose qui a changé. Ouais. Il y a quand même une soif dans la matière qui est apparue, une soif dans le sensible qui est apparue, une soif dans la vie qui est apparue, une soif métaphysique dans la vie. La matière, les corps, les êtres vivants, et tout le sensitif, tout le point de vue artistique, tout le point de vue contemplatif, tout le point de vue vital, d'amour humain même, eh ben, porte en lui cette aspiration à l'éternité. Mais une aspiration vivante à l'éternité. Hein, il suffit de regarder l'histoire des religions hein, jusqu'à la résurrection du Christ pour voir que l'aspiration à la vie éternelle ne s'est jamais structurée. Jamais. Jamais. Pas un seul texte. Ah oui, à l'immortalité, oui. Jamais. Pas une seule fois. Si. Abraham. Mais tout juste, vous voyez, c'est pour ça que Élie n'est pas au ciel. Enoch n'est pas au ciel. Ils sont morts, ils sont emportés, mais ils sont encore dans le cycle. Nul ne peut pénétrer au ciel s'il n'est pas passé par la mort. Hein? Élie, vous savez bien, hein? C'est toute la tradition, c'est l'écriture. Saint Thomas d'Aquin. Ils sont emportés, ils sont encore dans notre monde, dans ce qu'on appelle le septième ciel, etc. Dans le ciel empyré ou dans le paradis terrestre, ça dépend. Il y a des gens qui vont dire toutes sortes de solutions. Mais enfin, ils ne sont pas dans la vision béatifique. Ils ne sont pas rentrés dans la très sainte Trinité. Même à la résurrection du Christ, toujours là. Dans notre monde. Dans un monde de lumière. Pardon ? La Vierge Marie ? Ah bon, je croyais qu'elle avait participé au contraire substantiellement, un, à la mort du Christ, deuxièmement à la dormition. Elle a connu à l'instant sa mort, son assomption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de durée dans sa mort, mais elle a connu la mort. Il n'y a pas eu de durée dans sa mort, mais elle a connu la mort. Et donc, voyez bien, il y a quelque chose de nouveau, il faut être conscient de ça. L'histoire de la mystique, l'histoire des religions, l'histoire des textes nous prouve ça, c'est incontournable. Depuis que Jésus est ressuscité des morts, tous les athées, les incroyants, les philosophes et les chrétiens et les saints, tous aspirent à la vie éternelle. Ça, c'est vrai. On aspire pas seulement à cette espèce de continuité, de durer toujours au-delà de la mort, hein. Entrer dans le cycle. Ça, le démon voudrait, hein, nous rabattre dans une espèce de cycle après la mort, et puis après on continue à se purifier, puis après on retrouve autre chose pour aller, hein, le cycle, donc, une espèce de métempsychose. Ça peut être une métempsychose, une réincarnation très grossière, on retrouve une vie humaine, ça peut être un autre type de réincarnation, ça peut être une espèce de traditionnisme purement spiritualiste. Vous voyez ? Mais c'est vrai que Jésus a fait exploser ça. Hein? Avec le péché originel, cette espèce d'enfermement a explosé. C'est ça le mystère de l'ascension. Eh bien, à chaque fois que je vois que j'existe, Dieu est là. Et s'ils existent, c'est le fruit, c'est le résultat de l'amour de Dieu pour moi. Il m'aime, moi. Il sait ce à quoi, il sait ce qu'il veut de moi. Il sait où je vais. Il sait ce qu'il désire de moi. C'est le désir de Dieu qui fait que j'existe. Dieu me désire. Dieu m'aime. Dieu me connaît. Et Jésus, sur la croix, rajoute à cela, en tant que, à partir du moment où il monte dans les cieux, dans le Père, et qu'il participe à un seul acte créateur avec le Père sur moi, alors à ce moment-là, Dieu, Jésus me connaît. Et donc je suis à l'intérieur de Jésus, dès que j'aspire à l'amour, un être suspendu à l'amour éternel, pas contre, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, éternel, hein. C'est pas pareil, hein. À la sainteté. Vous savez bien que Dieu est l'amour implique l'éternité. Dès que vous si vous n'avez jamais fait une expérience même d'éternité, c'est très embêtant, ça prouve que vous n'avez jamais fait une expérience d'amour humain. Donc quand vous aimez quelqu'un très intensément, qui a l'amour humain, qui a vraiment l'unité des deux là, eh bien le temps d'avant et le temps d'après sont assumés, absorbés, aspirés. Est-ce que ça a duré? On le sait très bien. On le sait très bien. Ça a duré seulement 2 secondes, ça vous a paru. Est-ce que vous savez si ça a duré 3 heures? 10 minutes ou 2 secondes, ça a duré 2 secondes en fait. Pour l'extérieur, pour les gens de l'extérieur, pour le chronomètre. Mais ça a duré un instant. C'est vrai, l'éternité, c'est pas le temps qui continue, c'est tout le temps qui est dans un seul instant, qui est éternel. Tout est suspendu, tout est amour. C'est l'amour. L'éternité, c'est pas, n'a rien à voir avec le temps. C'est de l'amour. Et c'est cet amour qui est origine de la vie, laquelle s'inscrit dans le temps. C'est Dieu qui est amour. Et Jésus est sur la croix pour nous redonner l'amour. Dans un sacerdoce, Jésus nous donne un sacerdoce. Jésus est le prêtre, mais son sacerdoce, c'est un sacerdoce d'amour. C'est un sacerdoce victimal d'amour, il s'offre, il offre toute sa vie par amour pour le Père, il aime le Père. Il faut que le monde sache, il faut que le temps sache, il faut que le monde sache que j'aime le Père, alors il est parti au mont des Oliviers. Et sur la croix, il faut que Marie sache que j'aime le Père, alors il la laisse, femme, voilà ton. Alors, c'est un sacerdoce d'amour, ce n'est pas un sacerdoce naturel, ce n'est pas un sacerdoce sacrificiel, ce n'est pas un sacerdoce lévitique, ce n'est pas un sacerdoce, comprenez, ce n'est pas un sacerdoce terrestre, ce n'est pas un sacerdoce religieux. C'est un sacerdoce éternel, c'est un sacerdoce d'amour, c'est un sacerdoce créateur, créateur d'éternité. On ne devient... L'homme devient créateur d'éternité. Et donc Jésus, en ce moment, prend conscience dans mon acte de lucidité sur moi-même, lucidité d'amour, lucidité intérieure, lucidité humaine, prendre conscience qu'en ce moment, je me touche, ah, et si j'existe, si je vis dans cette aspiration à l'éternité, à un amour tout à fait extraordinaire, tout à fait éternel, tout à fait dans une communication continuelle de gloire éternelle et lumineuse et créatrice de tout. Et baignant dans l'incréé. Et si j'aspire à ça, ce qui est l'aspiration de tout être humain, de maintenant, ça, vous dites ça à n'importe qui, il sera d'accord, si moi je suis d'accord avec ça. Et vous regardez les textes, je vous affirme, vous regardez les textes, hein. Je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil sur l'histoire des philosophies des religions, mais regardez les textes, vous voyez que avant le Christ, alors là, inexistant. Hein, inexistant. D'ailleurs, je vous ai lu quelques petits passages, par exemple sur les Védas, etc., pendant, à Montpellier, n'est-ce pas, pendant l'année. Ce n'est pas ni ça du tout. Rien. C'est depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts que tous les hommes, c'est vrai, il y a une transformation. Ce n'est pas culturel. Ce n'est pas conventionnel. De nouveau qui s'est passé, la recréation par le Christ ressuscité, assis à la droite du Père. L'ascension, c'est curieux, hein. L'axe, c'est pas la croix. L'axe, c'est pas la résurrection. L'axe de tout, c'est l'ascension. La médiation, le sacerdoce. Le passage de la médiation au sacerdoce, c'est l'ascension. C'est l'axe. Ça, j'espère que maintenant vous l'avez compris, ça. Ça, c'est nécessaire. C'est vital de saisir ça. Parce que, hein, jusqu'à maintenant, vous disiez l'ascension, la résurrection. Kiff, kiff, bourricot, hein? Hein, au dimanche du rameau, il y a l'ânesse et puis le petit de l'ânesse. Bon, pourquoi est-ce que Jésus s'est mis sur le petit de l'ânesse plutôt que sur l'ânesse? Il aurait été un peu plus haut sur l'ânesse. Hein, au dimanche du rameau. Non, non. Le petit, l'ascension, c'est le petit de l'ânesse. Vous voyez, c'est le petit de la résurrection. Il dit, bon, il y a la résurrection, puis 40 jours après l'ascension. Bon, c'est une des apparitions, c'est tout. Jésus a été institué prêtre pour l'éternité, selon le sacerdoce de Melchisédek, psaume 109. La médiation enfante le sacerdoce éternel du Christ. Jésus est envoyé par le Père, incarnation. Il revient vers le Père. Rédemption. Il a la victoire de l'amour et jouit de l'amour dans le sein du Père pour ce qui est de lui-même, en lui-même, et par lui-même, et pour lui-même, et pour le Père. Résurrection. En portant avec lui toute la création, d'ailleurs. Résurrection. Mais il est monté au ciel. Il rentre dans la procession intime de l'éternité glorieuse de l'amour, c'est l'ascension. Jusqu'à l'ascension, il y a encore quand même dans la résurrection. Il y a encore parmi nous. Je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est très mystérieux, ça. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est impossible à comprendre. C'est très facile à comprendre. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je prends un acte de lucidité sur moi-même, Dieu est présent, j'existe, j'aspire à ça, je vois bien que j'aspire enfin à l'amour, enfin je sais pas, mais c'est trop clair. Donc je prends conscience de moi-même, je sais que je veux être moi-même, c'est-à-dire tout en extase, ravi, dans cette plénitude d'épanouissement de moi-même, c'est-à-dire dans l'amour éternel. Ça, qui n'est pas capable? Il est lucide sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit, que c'est ça, son identité, son inspiration profonde, son origine et sa fin. Qui aurait la loyauté ou la déloyauté de dire « Poutou, moi j'ai jamais... » Eh bien, en tout cas, c'est effectivement ça qui fait la catholicité du monde humain, n'est-ce pas ? L'universalité de toute la vie intime de chacun. Et c'est ça qui fait l'homme, nous savons, nous, en plus, non seulement par l'histoire des religions, mais aussi par l'écriture, que c'est le Christ qui fait ça en moi. En moi, il fait qu'il y a cette aspiration à l'éternité. En moi, c'est parce qu'il m'aime, et c'est parce qu'il me connaît, qu'il engendre en moi cette sainteté finale. Et du coup, cette attraction, cette vocation, cette aspiration, cette vie déjà éternel dans l'intention. Dès que je vois ce que je suis, je vois que si je suis ce que je suis, c'est parce que Jésus est là, qui me contemple et qui m'aime. Jésus m'aime. Et c'est parce qu'il m'aime. Alors, il est là. Ah, alors à ce moment-là, dès que je fais un acte libre, Jésus n'est pas. Seigneur Jésus, viens vite me sauver. Hein? Non, je ne peux plus dire ça, vous comprenez? Jésus est là. Et si je vis ça, c'est parce que Jésus est là, ressuscité à la droite du Père dans l'éternité là. Sinon, je ne vivrai pas ça. Tout ce que je vis, c'est Jésus qui vit à travers moi, c'est Jésus et moi qui ne vis. Sans que je disparaisse et sans que Jésus disparaisse. Cette unité extraordinaire entre Jésus et moi, il est là. Jésus même, il est présent. J'existe, je suis présent à moi-même, donc Jésus est présent. Il me connaît, il me contemple et il n'aime que moi. Il fait tout avec moi. Dès que je fais un jugement, je m'arrête. Facile, 3, 4 secondes. 4 secondes pour s'arrêter. Comment vivre sa journée en tant que prêtre lié à Jésus, prêtre, sacerdoce royal. La base de tout, l'adoration. L'adoration chrétienne. L'adoration chrétienne, j'existe. Donc l'adoration naturelle, c'est celle qu'on avait vue le premier jour, jeudi matin. C'est j'existe. Je suis suspendu à la créateur de Dieu. Et si j'existe, c'est tout simplement le fait que j'existe. Ça, c'est la production. C'est Dieu qui m'aime et qui pense à moi. Et il est là. Pourquoi se tourmenter puisque Dieu est là? Toute ma vie est donnée en sa vie. Tout est un librement. Je vis cette unité avec lui. Et je repars. 4 secondes. Comme c'est facile. Donc si je veux vivre une vie qui implique la santé humaine, qui n'implique pas la foi, qui n'implique pas la sainteté surnaturelle, non plus. Si je veux vivre en pleine santé humaine, je dois faire des actes d'adoration. Sinon, je suis un malade, humainement parlant, philosophiquement parlant, et du coup psychologiquement parlant. L'artiste est mort, si je n'adore pas. Le créateur est mort, si je n'adore pas. Donc l'artiste est mort, si je n'adore pas. Parce que l'artiste est bien un créateur de beauté. Or, c'est curieux parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut être artiste. Et puis en même temps, on est dans un monde qui dit il ne faut surtout pas vivre de l'union au créateur. C'est incroyable. C'est je veux vivre une vie humaine à condition d'être avorté tout de suite après la conception, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les tableaux expriment la lumière de l'avortement. Tout tableau en peinture, hein, c'est cette lumière, ça fait revivre d'une manière lumineuse une lumière cachée. C'est la vivification de la lumière. Elle redevient vivante grâce à la peinture, dans une beauté qui fait vivre cette lumière, son message. La lumière est message. La lumière est née de la lumière. La lumière est verbe. Elle est parole. Ça, c'est l'art dans la peinture. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est tellement vrai, en plus. Mais aujourd'hui, la peinture, vous le savez bien, la peinture moderne, contemporaine, quel est le message qu'elle apporte? De la mort, de la naissance, le chaos, après l'immense pureté d'une innocence entièrement confiante dans la réceptivité d'un amour éternel, tout de suite. l'éclatement en morceaux, la mort de Dieu, l'avortement. Vous savez qu'à voir, hein, ce tableau, l'éclatement.
Le tableau, vous verrez.
C'est quelque chose c'est un brouillard, etc. Mais il y a de la lumière dedans, hein. Toujours un petit peu du sang ou de du contraire du sang, hein. Du vert caca, etc. Mais c'est ça le tableau moderne, c'est ça. Mais faites les. C'est très 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 important d'aller faire les galeries. C'est très important. Et quand on est Quand on est dans un monde, il faut comprendre le monde. Et l'artiste donne le message sur la situation, la contemplation des hommes de son temps. Il faut saisir ça, il faut comprendre pourquoi. C'est parce qu'on est à la recherche de l'origine créatrice de Dieu. Et qu'on a du mal parce qu'on bute sur l'avortement. Le nôtre, hein, l'avortement. On a tué en nous l'enfant, on a tué en nous la vie originelle, cette vocation à la vie, à l'éternité, qui implique la présence de Dieu, adoration naturelle. Si je veux retrouver au moins la santé naturelle, au moins retrouver cet élan que j'avais quand même quand je suis dans ma conception tout de même, hein, au minimum, hein. On ne demande pas de grandir, mais pas au moins ça. Ah. C'est vrai. Alors, on fait des actes d'adoration. Et ça, c'est Dieu est présent, mais c'est uniquement parce qu'il m'aime, il m'aime. Donc tout l'amour de Dieu est là. Et je suis capable de tout l'amour de Dieu, de toute la présence de Dieu. Je suis fabriqué avec ça. Ça ne m'a jamais quitté. Acte d'adoration naturelle. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et juste après, je peux faire un petit tableau. Ce sera un peu plus lumineux. Ce sera une lumière plus humaine, plus de renaissance. Oui, parce que c'est une personne ici, spécialiste de peinture, de la renaissance. Ça, c'est sûr, ça. Il faut faire des actes d'adoration naturels. Mais maintenant, actes d'adoration chrétienne. Ah, à l'intérieur de cette lumière, je constate qu'il y a en plus une aspiration, un élan, une vocation à quelque chose qui implique l'amour dans toute sa splendeur, dans toutes ses victoires, dans toute sa catholicité et surtout dans son éternité. Alors ça, c'est sûr, ça. On a une aspiration à cet engendrement dans une lumière de gloire. Ça, on aspire à ça. Et ça, voilà ce que je vis. Voilà mon existence. Ah, voilà ce que je vis. Alors, et bien ça, c'est parce que Jésus, d'où ça vient, ça? C'est parce qu'en ce moment, Jésus m'aime. Jésus est uni à moi, Jésus pense à moi. Ça s'appelle la prédestination. C'est ça le mystère de la prédestination. C'est quand je constate. C'est plus, vous voyez, que le fait d'exister et d'être lié à une vie qui me dépasse dans le Créateur. C'est plus. J'aspire à l'amour. Que l'amour soit vainqueur de tous les obstacles. Hein. Que je puisse aimer tous mes ennemis. Celui que je voudrais étrangler, tuer, qui n'existe plus, qui soit mort, et puis qui disparaisse de mon horizon. Et je voudrais arriver à avoir un cœur si extraordinaire, qui soit entièrement béni. Mais ça n'arrive pas du tout. Mais je voudrais ça. À ce moment-là, je vois que. Et tous, on le veut, hein, l'incroyant comme le croyant, hein, ça. Eh bien, l'incroyant ne le sait pas, mais nous, on a l'avantage de le savoir. C'est que ça, c'est parce que Jésus est là, dans mon corps, dans mon être. dans mon âme. Et c'est lui qui engendre ça, recréation. C'est lui qui engendre ça en ce moment, actuellement. Donc Jésus est là. Le fait de mon existence vitale avec toute cette aspiration à cette éternité d'amour, à cet amour, j'allais dire, lumineux et incarné, malgré les obstacles, hein, c'est bien ça. Eh bien ça, c'est la preuve, enfin, je touche directement que Jésus me contemple, ne regarde que moi et n'aime que moi. Et quand on aime quelqu'un, donc, on est entièrement à lui. Et on n'est qu'à lui. Il n'est que à moi. Il ne pense qu'à moi. Jésus m'aime. Jésus pense à moi. Et donc nous faisons les choses ensemble. Et après, je fais la vaisselle. On n'a pas le droit de faire la vaisselle. Comme une bête. On fait la vaisselle. Faire la vaisselle comme une vache, c'est sale. On fait la vaisselle comme fils de Dieu. Et ce n'est pas une blague. Parce que Jésus est là. Et c'est le fils de Dieu qui fait la vaisselle. Il ne se sépare pas de moi avec un amour éternel. Comme ça, l'éternité rentre dans la assiette. Que Dieu ait pensé aux choses jusque dans ces détails, c'est extraordinaire. Et une fois de temps en temps, voyez, dans la journée, comprendre que Jésus est là, qu'il est inséparé, je ne fais rien pour Jésus. Ça ne sert à rien, ça. Mais Jésus et moi, on est ensemble. Il est là. Il pense à moi. Il m'aime. Il me porte. Il est heureux. Il est dans la béatitude. Il est dans la gloire. Il est heureux parce qu'il m'aime. Et c'est ça qui fait que j'existe. C'est ça qui fait que j'existe. C'est ça qui fait que mon existence est concrète. C'est dans l'Écriture. Épître aux Éphésiens. Relisez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Mon existence ne serait pas concrète. Ce serait une existence idéale, sinon, si vous voulez. Tellurique. Un espèce de mouvement évolutionniste, l'alpha vers l'oméga, quoi. Tellurique. Oh, l'existence concrète. Il faut faire cet acte d'adoration. Prends 4 ou 5 secondes. Hein. Dès que j'y pense, dès que tiens, ah, oh, ah, je suis, ah. Ah, ouf! Ouf! À ce moment-là, tout le tragique, terminé, dégagé. Hop, et on peut commencer à revivre, à exister vraiment. Ma journée, vous voyez, commence comme ça. 5 minutes d'oraison. 5 minutes d'oraison. Et puis, dans la journée, dès que j'y pense, comme le filet du pêcheur, un point ici, un point là, un point là, à la fin de la journée, 5 minutes d'oraison. Ça, c'est le filet de tennis, c'est le nouveau Roland-Garros. Le filet du pêcheur qui ramène tous les poissons de la journée. Tous les moments de la journée sont ramenés dans la très sainte Trinité, si je fais ça. Mais il me faut ma petite oraison du matin. Je crois, je suis là, crucifié, je vis avec l'Immaculée de la Résurrection. De la très sainte Trinité, j'aspire, c'est dire tu es là, je suis là, nous sommes là, toute la création est là, tous les hommes t'aiment, tous les animaux, toute la création attend la révélation de ma prière. Toute la création attend que je me réveille dans l'oraison. Toute la création. Je lis l'Écriture, la Bible un petit peu, l'Épître aux Éphésiens chapitre 1. Si j'arrive pas à prier, ça fait rien. Je médite, je dis Notre Père. que Jésus dit notre Père éternellement, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, ça, de toute façon, je peux pas faire autrement que m'arrêter, hein. 5 minutes. Et puis après, je pars au boulot, je prends mon métro, et puis boulot dodo. C'est dans le métro, je me suis pas encore réveillé, vous comprenez, alors je dors un peu. Je me rappelle que j'allais à Paris, à la sortie du métro, je partais, je montais, j'arrivais au bureau, et puis de 9h à 11h, je dormais un peu. Je faisais semblant de lire les journaux, etc., de la profession, et tout. Et puis, parce qu'on envoyait voir Jésus dans les rues jusqu'à 3h du matin, je veux dire, c'est quand même. Alors dodo, mais avec, on se réveille. Ah, acte d'adoration, Jésus est là. Une petite image du Saint-Suaire sur le bureau, c'est ça. Ça, puis le président arrive. Oh, monsieur le président. Oui, j'étais très occupé, excusez-moi. Très absorbé. Il y a quelqu'un dans le bureau qui faisait ça, nous étions 20 ou 30 qui faisait ça. Il y a une photo. Ce type-là était rayonnant. Sur la photo, ça se voit. Il y avait un type qui faisait ça aussi. Tous les autres, ils étaient morts. Visage un peu... C'est marrant, hein? Comme ça. Comme les... Un peu comme ce... Bon. Il faut faire des actes d'adoration, vous comprenez ça? Et acte d'adoration chrétienne, c'est Jésus qui transpire cet amour éternel dans mon concret, dans ma vie incarnée, dans ma vie concrète. J'existe concrètement, voyez ça, et j'en vis intensément, je laisse aller jusqu'au bout de son unité avec moi. Respiration chrétienne, 4 secondes, comme c'est facile, Jésus me recrée, je suis entièrement recréé. Et je recrée, c'est pas que je recrée Jésus, c'est pas ça, mais c'est réciproque tout de même. C'est-à-dire, j'accepte cette recréation et du coup Jésus est réellement présent. C'est un sacrement, vous comprenez le baptême. Ça, voilà comment on vit du baptême, hein, y a pas d'autre méthode. Hein. Si vous êtes baptisé et que vous faites pas ça, ça veut dire que, voilà, vous avez reçu le baptême, mais vous êtes comme un prêtre qui a reçu l'ordination, puis qui dit jamais, 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 jamais. Acte d'adoration chrétienne, ça c'est sûr, oraison du matin, oraison du soir, hein. C'est uniquement l'oraison qui permet au baptême d'être actuel. Ça on l'a vu des milliers de fois et je crois que c'est très important ça. Maintenant, si je veux vivre du Saint-Esprit, ah oui, si je veux vivre maintenant du sacerdoce éternel de Jésus, alors, à ce moment-là, je comprends que Jésus a embrassé tous les temps, tous les lieux, pas seulement moi. Il a embrassé la plénitude des temps. Il a embrassé la plénitude de la vie. Il a embrassé la plénitude de la grâce. Il a embrassé la plénitude de la gloire. Il a embrassé l'Immaculé. L'Immaculé, lui, cette plénitude, en extension et en intensité et en compréhension de tous les amours possibles qui ont jamais existé, qui existeront jamais, et dans l'incréé, et dans le créé, sont présents en l'Immaculé, et ils vivifient ça. Et si j'existe, si j'aspire, si je suis, je commence à voir que cette grâce-là est présente, Marie est là. C'est Marie qui est là. Marie est mon lieu, mon enveloppe, ma maternité, mon milieu ambiant, mon océan, ma vie. Alors Marie me voit, Marie sait très bien quelle est ma vocation, elle le sait très bien. Marie sait, l'Immaculée le sait, et elle aime cette vocation éternelle, elle aime cette plénitude de sainteté à laquelle je suis appelé, elle l'aime, et c'est pour ça. Je n'ai pas à m'en préoccuper, il suffit que je vive avec elle. Et c'est ça ma vocation. J'en ai pas d'autre. Et elle me conduit comme une bergère. L'armée rangée en bataille, la tour d'ivoire, inatteignable par toutes les autres tentations, troubles, etc. et d'autres. Et voilà. Et Marie me connaît, Marie me contemple, Marie n'aime que moi. mais dans une plénitude de grâce, plénitude de gloire, plénitude d'incréation, plénitude de création, plénitude, plénitude. Marie-Mère, elle pense à moi. Alors tout de suite, je suis purifié, tout de suite, je suis immaculé, tout de suite, je suis sanctifié, tout de suite, je suis dynamisé, tout de suite, je suis éternisé, tout de suite, je suis temporalisé, tout de suite, je suis concrétisé. Adoration mystique, tout de suite l'Esprit Saint est là. Et je peux faire aussi des actes d'adoration mystique comme ça avec l'Immaculée. L'Immaculée est inséparée du sacerdoce éternel de Christ. Parce que, voyez bien, l'homme, l'époux, donne son énergie à l'épouse. L'épouse recueille l'énergie de l'époux. Déjà au niveau biologique, c'est comme ça. Pour lui donner sa manifestation. L'enfant, c'est bien la manifestation de la semence de l'époux, de l'origine. L'origine, c'est l'époux. Mais l'épouse recueille l'énergie de l'époux pour lui donner sa manifestation. L'Immaculée, c'est quoi? C'est celle qui recueille le prêtre éternel dans toute son extension, dans toute sa plénitude de gloire, d'éternité et de temps. Et qui est comme une espèce d'entonnoir, c'est tout petit, la première cellule, comme une espèce d'entonnoir, pour moi. C'est super! Et ça, c'est moi. Je suis le fruit de l'unité, de l'unité de l'Immaculée Conception de la Reine, et puis du sacerdoce éternel du Christ. Le Sénis, l'unité des deux. Mais enfin, il faut regarder la réalité en face. Alors, je fais cet acte d'adoration. Je respire. C'était rempli d'épines, rempli de ronces, etc. D'un seul coup, je suis le buisson ardent. C'est pas Dieu qui dit je suis celui qui suis. Le buisson ardent, le nom, la parole de Dieu. Je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis celui que Dieu, le Dieu messianique, crée. C'est ça que ça veut dire. Donc je suis celui que Dieu crée dans son Messie. Celui-là, c'est ce que je suis. Ayez, ailleurs, ayez, achère, ayez. Le puissant ardent, c'est nous, quand on vit l'Immaculé, dans sa plénitude silencieuse de réceptivité du sacerdoce éternel du Christ. C'est le sacerdoce royal, cet acte d'adoration. Parce que quand l'épouse accueille l'époux, il n'y a plus que l'époux. Et c'est comme ça. Elle passe de la médiation de toute grâce au sacerdoce de la femme, la reine. La médiatrice de toute grâce est celle qui va vivre, qui va aspirer à ce qui est plus que Jésus. Prêtre éternel, à ce moment-là, il n'y a plus que lui. Et à ce moment, elle devient reine. Et bien ceci se conçoit dans les fils de Dieu, dans les fils de la femme, dans les baptisés. Parce que ça ne se conçoit pas en elle, puisque elle est la conception. Elle est avec le Christ prêtre, celle qui conçoit. Et mais la conception, c'est les fils de Dieu, c'est nous. C'est pour ça que Jésus dit, c'est plus, vous comprenez? C'est pour ça que Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que moi je fais. Et Marie peut le dire aussi. tout à fait étonnant. C'est pour ça. Faut comprendre, quoi, ça. C'est pour ça que toute la création aspire à la révélation des fils de Dieu. Et elle n'aspire pas à la révélation de l'Immaculée et de la Reine. Hein. La création n'aspire pas à la révélation de Marie-Reine Immaculée. La création n'aspire pas à la révélation de Jésus assis à la droite du Père. Tu ne verras ça jamais dans l'Écriture. Hein. La création aspire à la révélation des fils de Dieu. Et on a nous, quand on vit de sacerdoce éternel du Christ et de la plénitude de la royauté sacerdotale de Marie, reine. Et lorsque les deux se conjoignent, ils me conçoivent comme fils, source de l'Esprit Saint pour le Père, sacerdoce éternel. Et ça, vous comprenez que le dire sans le vivre, c'est terrible. C'est pour ça que c'est si délicat hein, de faire une retraite sur sacerdoce. Il faut le vivre quand on le dit. Sinon, ça n'a aucun rapport avec la vérité. C'est à l'intérieur du mystère de l'Église comme mystère. C'est à l'intérieur du mystère de l'Église comme mystère de communion trinitaire. Oui, pour ceux qui le notent, je vous le dis. C'est à l'intérieur du mystère de l'Église comme mystère de communion trinitaire en tant que missionnaire que se révèle toute identité chrétienne. Et par conséquent, l'identité spécifique, exclusive, si vous préférez, spécifique et personnel du prêtre et de son ministère. Alors qu'est-ce que c'est que le sacrement du prêtre? C'est à l'intérieur du mystère de l'Église, comme mystère de communion trinitaire en tension missionnaire, que se révèle toute identité chrétienne et par conséquent l'identité spécifique. Je ne sais pas quel est le mot latin. C'est peut-être exclusive. Hein. Specifica, ce qui n'existe pas en latin. Alors. Specificam identitas. Je ne crois pas. L'identité. Enfin, je commanderai le texte latin. L'identité spécifique et personnelle du prêtre et de son ministère. Le ministère, c'est le sacrement. Hein. Et l'identité chrétienne, c'est sacerdoce royal. L'identité chrétienne, sacerdoce des fidèles, hein, sacerdoce royal. Et plus spécifiquement, l'identité personnelle du prêtre, structurée par un sacrement de sacerdoce. Vous voyez bien? Alors, maintenant j'explique. Je réexplique. Qu'est-ce qui se passe lorsque les baptisés, ceux qui vivent du sacerdoce royal, ceux qui ont fait des actes d'adoration naturels, qui ont retrouvé leur identité naturelle, leur santé naturelle, ceux qui ont retrouvé leur vocation à l'amour éternel, Jésus est là, Jésus même, Jésus est content, Jésus dans la béatitude, la plénitude, c'est ça qui fait que j'ai cette vocation à l'amour éternel. Et ceux qui vivent du sacerdoce royal, avec l'Immaculée là, et je suis conçu comme fils de Dieu. Et je réponds à l'aspiration de toute la création qui attend ma serait dans son unité de chair glorieuse et éternelle, et incarnée avec le sacerdoce éternel du Christ, nous me conçoit même. Je suis baptisé, je suis prêtre, royalement prêtre, par le baptême, et donc source de l'Esprit Saint pour le Père. Lorsque le baptisé a vécu toute sa journée comme ça en faisant des actes d'adoration, 5, 7 par jour, 53 par jour, comme vous voulez. Il y a quelqu'un qu'on est en train de béatifier qui vient de Belgique, qui est mort en 1957, je crois. Et il avait calculé une fois 24 000 actes d'adoration par jour. 24 000, c'est pas mal. Le plus beau, c'est qu'il avait calculé. Bon, très bien. Non, mais vous ne vous fatiguez pas trop. 10, 7, 1, pas 1. Je vous dis pas 1000 fois moins que lui. 24, oh, c'est trop fatigant. Non. Un peu, quoi. Hein? Le péché, c'est de ne pas adorer. Il n'y a pas d'autre péché. Il n'y a pas d'autre. Regardez quelquefois que les angoisses qu'on a quand on a peur que les autres vous prennent un petit peu pour te la crotte. Hein, vous êtes dans une espèce de paranoïa, d'angoisse. Oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ça hein? Vous comprenez pourquoi il y a cette manie? Vous comprenez? En face d'un certain nombre de fils de Dieu qui vivent du baptême une fois ou l'autre dans la journée et ramènent d'ailleurs à ce moment-là dans l'église face au pontife, face au sacrement, ils ramènent tous leurs instants. Et donc il y a la rencontre du sacerdoce royal dans l'église, ils rentrent dans l'église comme l'Immaculée Conception rentre dans l'Assomption. Et le Christ éternel rentre dans l'Immaculée Conception, qui se laisse assumer par lui dans le mystère de l'Assomption. Le sacerdoce éternel du Christ réalise. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'un prêtre rentre dans l'église, au milieu d'une église où il y a deux ou trois fils de Dieu. Alors, le sacrement du sacerdoce devient actuel. Oui, parce que je peux recevoir le sacrement de l'ordre, le sacerdoce, mais il n'est pas toujours actualisé. Il est actualisé à la rencontre de l'épouse et de l'époux. Le Christ, à travers le pauvre homme, l'instrument sacerdotal qui est là, est présent réellement dans sa communication vivante d'éternité glorieuse à l'Immaculée Conception et à la Reine. Cette rencontre vivante de la création incarnée de l'Esprit Saint dans le Père et dans le monde communique à la médiatrice qui rentre dans le sacerdoce royal, la reine. C'est ça qui se passe sous nos yeux. Rencontre du sacerdoce royal et du sacerdoce éternel. C'est ça qui se passe sous nos yeux. Réellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'Église comme mystère de communion. La rencontre de ce sacrement des prêtres et puis de ceux qui vivent en Fils de Dieu, ceux qui adorent en esprit, en vérité. À ce moment-là, il y a une communion. Le prêtre, lui, tout son travail, toute sa vie, toute sa vocation, c'est d'être entièrement disparu à l'intérieur du Christ prêtre. Il n'y a plus rien pour lui. Il est victime et il s'offre en victime d'amour à Jésus seul. Et tout le travail du sacerdoce royal, c'est de vivre de ce sacerdoce mystique, de l'Immaculée Conception, cette adoration, l'Esprit en vérité. C'est Marie qui reçoit le Christ prêtre. Et vous recevez, vous recevez cette grâce de plénitude. Totalement, rien ne vous est retiré. Tout est présent dans votre acte de Fils de Dieu quand vous rentrez dans l'Église. Le baptême vous donne ce pouvoir de réaliser dans cet instant la même chose, la même fécondité, la même gloire, le même mérite, la même charité, parce que vous recevez donc à travers lui la vie éternelle de Jésus glorifié, glorifiant le Père. Source du Saint-Esprit, dans le sein du Père, éternellement. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Apparaît la res du sacrement. Ça, c'est la matière. N'est-ce pas ? La matière. La liturgie, si vous préférez. C'est extérieur, la liturgie. On rentre dans l'église. Dans une église, dans l'église de Saint-Savournin. La res du sacrement. Va apparaître la res. Qu'est-ce que c'est qui apparaît à ce moment-là? C'est ça qu'il faut voir, vous voyez. Il faut quand même savoir. La res, selon ce que je lis ici, c'est que dès qu'on vit ça, dès que je reçois le prêtre, à travers le prêtre, la vie sacerdotale du Christ, ce que son âme humaine, sa vie intérieure humaine, vivifiée dans le Verbe et dans le sein du Père, qui fait que du coup c'est lui, sa vie, son âme humaine incarnée, mais glorifiée éternellement, qui est source de Dieu, Esprit Saint. Les torrents et torrents et torrents et torrents de l'Esprit Saint. La substance même de l'Esprit Saint, l'aspiration de l'Esprit Saint. La gloire qui glorifie le Père et le Fils éternellement et qui fait que la Très Sainte Trinité est Très Sainte Trinité. Sort de la vie humaine de Jésus. De sorte que, voyez bien, vous avez l'apparition de Marie à Lourdes qui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et bien quand Jésus apparaît en tunique blanche, ceinture d'or, comme prêtre, lumière, de la lumière en son corps, et bien il peut dire « Je suis la Très Sainte ». C'est la très sainte Trinité. La reste du sacrement. Dans la vie humaine. La très sainte Trinité dans la vie humaine. Parce que la très sainte Trinité n'avait pas besoin d'un sacrement pour exister comme reste, comme substance. C'est vrai. Mais pour dire que la très sainte Trinité soit Heye, très sainte Trinité, je sais pas comment on dit très sainte Trinité en hébreu, Heye Yehoa, hein. C'est Heye, je suis celui qui advient, hein. Oh, je suis. Je suis celui qui advient, oh, je suis. Ça se dit en hébreu, Heye. Heye. Asher. Heye. Je suis celui qui suis. On traduit comme ça, ça va pas du tout, hein. Pas du tout. Non, je suis celui qui advient dans le je suis. Donc cette créature, enfin c'est un engendrement, c'est un devenir. Mais dans l'éternité. Il n'y a que le Messie qui peut dire ça. Il n'y a que le Fils de Dieu en plénitude, dans toute la création. Donc il n'y a que la reine avec lui qui peut le dire. Enfin, il n'y a que le Fils de Dieu qui peut le dire. Il n'y a que nous qui pouvons le dire. Il n'y a que le sacerdoce. Et Yahshua, le buisson ardent, c'est la révélation du sacerdoce, la première. Première fois que la bénédiction est redonnée dans l'histoire. Après la paternité, Abraham, Isaac et Jacob, c'est à Moïse, dans le buisson ardent. Heye, Asher, Heye. Mais donc la vie humaine, l'humanité intime, naturelle, vivante, qui est source, présence, advenue à l'existence, si je puis dire, advenue à sa plénitude de la très sainte Trinité elle-même, c'est ça. Le sacerdoce. Oui, vous me suivez? Vous me suivez? Il faut le vivre, hein, vous voyez, j'espère que c'est ça qu'il faut. Si on ne contemple pas, si on est antenne d'en dehors, de toute façon, alors, si on ne contemple pas, il faut contempler ça, en vivre, et cette surabondance, à ce moment-là, on peut comprendre. Sur abondance de notre contemplation actuelle, on peut comprendre, mais si on ne contemple pas, il faut le vivre, hein, avec Jésus, ça. Alors, il apparaît. N'est-il pas, je suis l'Immaculée Conception, en tunique blanche, il apparaît. C'est la révélation de la révélation, ça. Sacerdoce, c'est la révélation de la révélation. Oui, Jésus apparaît.
Il est
10h15. Oui. Oui, mais ça ne me dit pas combien de temps il me reste.
Vous
avez
dépassé 20h20.
Alors, je suis apparu. Le jour du Seigneur, je fus dans un ravissement. Ravissement. Le jour de la résurrection, jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix, une présence forte, comme une trompette. C'est impératif, la trompette, c'est maintenant. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Enfin, c'est sur nos cœurs de chair que j'écrirai ma loi. Alors je me retournai, et envoie-le à cette église, à l'église tout entière. Et envoie-le à l'église tout entière. Apocalypse chapitre 1, verset 11. Alors je me retournai pour voir, contempler cette présence, cette voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, la parole de Dieu était efficace. Elle réalise ce qu'elle signifie immédiatement. quand je me fus retourner, je vis cette menorah d'or. Cette menorah d'or. Et au milieu des menorahs, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or à charité qui serre tout le corps du Christ. La charité du Christ m'étreint, la charité de Jésus me prend, la charité de Jésus m'a saisi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. L'immaculation océanique de la contemplation parfaite. Il n'y a plus aucune. C'est une contemplation immaculée. Comme la laine blanche, comme de la neige. Donc la laine, c'est chaud, la laine. La neige, c'est splendide. C'est rayonnant. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise. Et sa voix, sa présence, était comme la présence des grandes eaux, toute la nature. Les cataractes de la vie. Et il tenait dans sa main son action. Dans sa main droite, son action féconde. Sa main droite, son action de toute puissance amoureuse. Agissante. À sa main droite, cette étoile, l'étoile parfaite. Cette étoile, ça veut dire l'étoile absolue. Je suis l'étoile du matin, Marie, l'étoile de la mer. Et de sa bouche, de ses lèvres, sortait un glaive, un romphaya aigu. À deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Alors quand je le vis, je tombais comme mort. Le prêtre n'existe plus que pour Jésus, il n'y a plus que Jésus qui existe. Et il posa sur moi sa main droite, c'est-à-dire son amour efficace et éternel, agissant. Ne crains pas. Je suis le premier, le Créateur, et le dernier, le prêtre éternel. Et le vivant. J'ai été mort, et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver encore. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, l'étoile parfaite, dans l'amour. Du Christ prêtre, l'étoile parfaite, l'étoile de la mer, c'est Marie reine. Je savais bien, c'est dans les litanies de la Vierge. Donc toute l'Apocalypse, c'est pour comprendre cet amour entre sacerdoce éternel de Jésus et Marie médiatrice, qui vit royalement de ce sacerdoce de Jésus, comme reine. Toute l'Apocalypse, c'est ça. C'est marqué là, c'est Jésus qui dit ce que je vais te révéler pendant l'Apocalypse. C'est écrit noir sur blanc. Connaître évidemment la symbolique biblique, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est écrit noir sur blanc. Écrit. Et les sept chandeliers d'or, les sept menorahs d'or, l'Église. L'amour de Jésus, prêtre, dans l'amour de la médiatrice, qui fait qu'elle vit comme reine de sacerdoce royal, fait qu'il y a l'unité des deux, c'est-à-dire l'Église dans toute sa splendeur, la Jérusalem céleste. Et c'est ça, la conception qui fait de moi ce que je suis dans le temps et dans l'éternité. C'est ma prédestination. Je suis un fils de Dieu. Je suis, si vous voulez, la coupe dans laquelle la Jérusalem céleste est conçue et dans laquelle elle doit se déployer. C'est extraordinaire, ça, les sept églises, l'église tout entière, l'église de la Jérusalem céleste, Jérusalem, je sais que c'est la Jérusalem céleste parce que enfin, je connais l'Apocalypse. Donc. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, Jésus, et les sept chandeliers, sept menorahs d'or, c'est-à-dire d'amour, c'est un sacerdoce d'amour, ce sont les sept églises. Ah, oui. Donc il faudrait voir ce qu'on va voir tout à l'heure, cet après-midi. Ce qu'il faudrait voir, ce serait, il faudrait lire l'Apocalypse, quoi, finalement. Mais il faudrait aussi voir comment ce sacerdoce en nous a été conçu. Le texte du Saint-Père, enfin, de la semaine dernière, il y a un mois, dit que le sacerdoce a été conçu, notre sacerdoce, le sacerdoce a été conçu, je sais pas, il faudrait que je le trouve, a été conçu au moment de la prière que Jésus a fait après l'Eucharistie. Prière du Fils bien-aimé, chapitre 17. Et là, qu'il y a eu la conception, quand il a demandé au Père, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Cette glorification, c'est là. Et le Père, et il dit, « Le Père m'a glorifié, je le glorifie encore. » Et puis, là, à ce moment-là, il y a eu une conception. Ils se sont conçus, l'épouse dans le Verbe de Dieu. Et le Père en dit oui à cette conception du sacerdoce. Alors, il a pu aller sur la croix. À la croix, une fois qu'il est mort, ce sacerdoce est né. Naissance du sacerdoce, c'est à la croix. Voici ton Fils. C'est une révolution extraordinaire. Mais cette nativité du sacerdoce à la croix n'a pas pu être manifestée, n'a pas pu être actualisée. Le premier mot du prêtre, la première action du prêtre, la première action de ce petit enfant qui est né, n'a pu se faire que la première messe, n'a pu se faire qu'après l'ascension et la Pentecôte. Donc voyez bien, il y a trois moments, il y a trois grands moments. Dans la conception, l'apparition, la naissance, la mise en vivification, l'advenue du sacerdoce sur notre, dans notre temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a différents degrés. Il y a le baptême, il y a le diaconat, le sacerdoce et la plénitude épiscopale. Il y a cette montée. Mais le prêtre n'existe pas si l'évêque ne le fait pas prêtre. Et donc, tant qu'il n'y a pas le quatrième, la plénitude du sacerdoce, il ne peut pas y avoir les trois autres dans leur manifestation temporelle, ecclésiale, si vous voulez. Et c'est pour ça que le sacerdoce, la première messe, ne peut être actué qu'après la Pentecôte. Et donc, c'est lié directement à l'envoi de l'Esprit-Saint, qui est l'unité du Père et du Fils. Normalement, la très sainte Trinité, eh ben, elle est là, éternellement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, j'allais dire, sont dans une communion intime, éternelle, incréée, continuelle, continuelle, éternelle, éternelle, entièrement absorbée, entièrement occupée à lui-même, en lui-même, pour lui-même, par lui-même, glorieusement, éternellement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est au moment où le prêtre rencontre l'Église de Jésus. Dans une petite église de pierre romane ou renaissance, qu'est-ce que ça peut faire? Ou dans une église moderne, avec des cercles, même si les vitraux sont brisés, peu importe, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'église est consacrée, à l'intérieur rentre un prêtre, à l'intérieur rentrent des baptisés de désir, des baptisés de sang, des baptisés sacramentels. Et à ce moment-là, il y a la rencontre du Christ, Verbe éternel, prêtre éternel, et du sacerdoce royal, de l'Immaculée, la Reine, et là, cette rencontre formidable dans l'unité des deux fait que mon identité chrétienne est actuelle. Si je suis baptisé ou si je suis prêtre, je suis actuellement dans mon identité de chrétien. L'identité chrétienne est là, dans la communion de l'Église et du sacerdoce. Et alors à ce moment-là, si l'identité chrétienne, c'est justement ce sacerdoce éternel du Christ, dans toute sa manifestation, sacerdoce éternel du Christ Jésus, dans toute sa manifestation, rencontre avec Marie-Rêve, dans toute sa manifestation, c'est donc comme Jésus est dans son humanité source, présence, vivification, à partir de l'humanité, à partir d'une vie humaine, à partir de l'humanité, de son humanité, l'humanité intégrale de l'homme et de la femme dans l'unité des deux. Source, la Trinité est là, je suis la très sainte Trinité, dit-il. La Trinité est là, la communion trinitaire est là. Mais, j'allais dire, elle est là, et comme il y a la rencontre de l'Église et du prêtre, du pape Jean-Paul II qui rentre à Saint-Pierre de Rome, et puis des gens qui sont là, à ce moment-là, la très sainte Trinité est là, et au lieu d'être entièrement engloutie dans la communion trinitaire ensemble, l'espèce, vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour la très sainte Trinité ? Au lieu d'être dans cette spiration d'éternité intime à elle-même, attirant tout à elle, au lieu d'être ça, que, si vous voulez, il y a une espèce de révolution, de conversion. Cette très sainte Trinité et la communion des personnes de la très sainte Trinité, au lieu d'être entièrement concentrée, est en tension missionnaire. Vous voyez, comme l'Eucharistie, c'est notre conversion. Et le sacerdoce, c'est la très sainte Trinité qui se convertit. Conversion de la très sainte Trinité. Conversion, pas de la très sainte Trinité, conversion de la communion trinitaire. La communion des trois personnes divines. Jésus a comme retourné la très sainte Trinité vers nous. Et c'est ça qui devient vivant et efficace quand on vit du sacrement. Dans la contradiction. Écoutez, vraiment, c'est à l'intérieur du mystère de l'Église comme mystère de communion trinitaire, en tension missionnaire. Normalement, la très sainte Trinité n'est pas en tension missionnaire. La très sainte Trinité, pour être en tension missionnaire, il faut être dans le devenir du temps. La très sainte Trinité, par elle-même, elle est en dehors du temps. Elle est dans l'incré, elle est dans l'éternité, point à la ligne. Ça ne veut pas dire que la très sainte Trinité n'est pas présente, mais elle est comme engloutie en elle-même, et c'est le Créateur qui est présent. C'est l'unité divine qui est créatrice. Mais là, d'un seul coup, c'est comme si j'allais dire... vous voyez, je ne sais pas, il faut sentir ça. Il faut sentir ce qui va... ce qui nous est donné ici par l'Esprit Saint, là, aujourd'hui, cette année. C'est dingue. Moi, j'aurais jamais osé. On m'aurait si on va me vider de la congrégation, on va me vider de me dire c'est un fou furieux, ce mec-là, c'est un nouvel origine, c'est un nouveau lamenaire, enfin, un nouveau. On ne sait pas. C'est évidemment, c'est pas tout à fait un nouveau Luther. Je termine par Luther. Luther en 1522, vision du sacerdoce passe par Luther. Hein? C'est toujours bien de voir compte les différences entre la foi protestante et la foi apostolique. Voilà comment il s'adresse aux prêtres. Vous allez voir, c'est la même chose que Jean dans l'Apocalypse, ou l'Immaculée Conception. Marie Médiatrice, dites-nous, prêtre de Baal, que la messe est un sacrifice. Comprenez ? Jésus s'est sacrifié par amour pour nous, il a donné toute sa vie. Il est victime d'amour. Il est en même temps la victime et celui qui offre la victime. Il s'offre lui-même tout entier. Vous nous dites que la messe est un sacrifice ? Mais en quel endroit le Christ a-t-il enseigné qu'on doit offrir à Dieu le pain et le vin consacrés ? N'entendez-vous pas ? Le Christ s'est offert lui-même une fois. Il ne peut plus être offert par aucun autre. Il veut qu'on fasse mémoire de son sacrifice. Comment êtes-vous donc assez téméraire pour faire de la mémoire un sacrifice? Puisque vous faites ainsi de la mémoire de son sacrifice un sacrifice, et que vous l'immolez encore une fois, pourquoi ne faites-vous pas donc de la mémoire de sa nativité une autre nativité? De sorte qu'il naisse encore une fois. Renouvelez donc toutes les œuvres du Christ en en faisant mémoire. Mais j'ai bien peur, ou plutôt, hélas, je sais bien, que votre sacrifice consiste à immoler encore une fois le Christ. Eh bien, il a parfaitement raison. Notre sacrifice consiste à immoler encore une fois le Christ. Parce que son immolation, c'est une offrande totale d'amour. C'est un sacerdoce d'amour. Voyez comment c'est curieux, comme même Satan, si on lui demandait de dire ce que c'est que sacerdoce, il serait obligé de dire la vérité en crachant. Mais il dirait la vérité. C'est la vérité. C'est dit avec un peu de haine, mais c'est la vérité. C'est un victime. Jésus est offert en victime à chaque messe. Il se redonne à nous, il vit à travers nous. C'est lui qui vit à travers chacun de nos actes. Dès que je fais un acte d'adoration chrétienne, je le sais, je le vois, c'est trop clair. Alors, et quand je revis la messe, enfin, il est dans le temps avec nous, il peut recommencer cette offrande victimale d'amour de lui-même. Tu comprends? Il peut recommencer. Et le sacrifice réellement réactualisé, oui. C'est beau ce que tu dis, Martin Luther. Rien que pour ça, on devrait le canoniser. Saint-Martin. Ah oui? Bon, pas pour dire prêtre de Bâle, là, j'aime pas Bâle, c'est tout. Mais le reste, oui. Prêtre. Et oui, parce que si vous faites mémoire de la nativité, on peut faire de la mémoire de la nativité pour que le Christ renaisse de nouveau. Ah, c'est quoi ça, hein? Quel sacrement qui est derrière la mémoire de la nativité? La vraie nativité, c'est quand Jésus est né à la résurrection. Hein? C'est le baptême qui fait ça. Quand je réactualise ça en moi, il y a une résurrection qui est actuelle à réaliser. Bon, elle n'atteint pas son épanouissement, sa manifestation, mais Jésus est ressuscité et dans la gloire. Mais ce n'est pas pour ça que sa manifestation, c'est-à-dire le retour glorieux et la récapitulation tout dans la gloire, se fasse en même temps. Ce n'est pas visible. C'est pas visible encore. Mais le baptême réalise effectivement cette nouvelle naissance de l'humanité de Jésus à partir de la matrice de la terre.
Jésus le dit lui-même,
il faut renaître de nouveau. Il faut rentrer à nouveau dans le sein maternel pour renaître une nouvelle vie, vie éternelle. Et la volonté du Père, c'est bien ça. La volonté du Père, c'est vie éternelle. Alors, oui, il a raison, nativité, on en fait mémoire par un sacrement, celui du baptême.
Mais lui, il le refuse.
Non, il dit la vérité.
Il dit la vérité.
Ça veut dire qu'il n'a pas saisi. Peut-être dans son cœur, mais il dit la vérité. Il faut pas oublier que Luther a la foi, donc il peut dire la vérité. Mais c'est dit sans amour. C'est un petit peu le problème de lui. C'est un petit peu nous aussi. On garde la foi, mais on n'a pas assez d'amour. Pas assez. On ne dit pas assez de ce sacerdoce d'amour. C'est le sacerdoce d'amour de Jésus qui nous permet d'intégrer la foi dans un amour éperdu. Un amour qui correspond à notre foi. On s'offre entièrement, on est victime d'amour. On accepte d'être offert entièrement à l'amour. On n'offre pas des petites choses. Ça me coûte, je te l'offre, Seigneur. Ça, c'est le sacrifice d'Abraham. Ça lui coûte à Abraham. Ou Abel, on me fait du mal, je suis une victime, on me persécute, etc. Mais ça fait rien, je suis innocent. Et dans cette innocence, je reste en présence de toi. Sacrifice d'Abel. Sacrifice d'Abraham, je prends quelque chose qui me coûte... Je ne sais pas, quelque chose, mon fils, moi-même, quelque chose qui sort de moi-même, allez, je sacrifie. Allez, la moitié de mon salaire pour... la moitié de mon salaire pour les lépreux. Hein? Sacrifice Abraham. J'ai envie de garder mon autonomie. Hein? Il faut mon autonomie. J'ai envie de garder mon autonomie. Ça, c'est mon fils, c'est moi-même, quoi. C'est ma vie, c'est ce qui sort de moi. Hein? C'est ce qui fait que j'ai en face de moi une ressemblance de moi-même. Mon autonomie, mon indépendance, etc. Qu'on me respecte, je suis responsable quand même. Non, non, je sacrifie. Hein? Tu vois? Je veux pas quand même tout le temps qu'on m'humilie, enfin. Je ne veux pas tout le temps être resté dans le silence, non. Je pose tout de même. Ah ah. Hein, sacrifice d'Abraham, si, si, j'offre ça. Je suis abandonné, je suis détaché. À ce moment-là, je commence à devenir moi-même. Sacrifice d'Abraham. Les sacrifices de Jésus, c'est différent. C'est encore différent. C'est moi-même. Je suis entièrement offert. Et quand je dis moi, c'est la Créateur de Dieu sur moi, donc sa présence de Dieu sur moi, tout entière, ce sacrifice de Jésus qui me recrée, tout entier, cette rencontre nuptiale avec Marie, dans l'Assomption, qui fait qu'elle est reine, et qu'elle vit pleinement de sacerdoce éternel du Christ, et dans l'unité avec lui, il n'y a plus que l'Esprit Saint. C'est ça que j'offre, en m'offrant moi-même tout entier, comme victime. C'est la matière du sacrement, d'après moi. Hein? C'est pas un point final. Et si je vis ça dans la communion de l'Église, à ce moment-là, la res, c'est la très sainte Trinité qui est présente en tension missionnaire. C'est la conversion de la très sainte Trinité. Écoutez, je suis désolé. Alors à ce moment-là, c'est ça qui fait l'unité de tout le genre humain. Vous allez comprendre tout de suite, à ce moment-là, ce que dit le Saint-Père, ici, Jean-Paul II. Or, dans cette trame multiple et riche des rapports qui ont leur source dans la très sainte Trinité, le sacerdoce sacramentel se prolonge dans la communion de l'Église comme signe et instrument dans le Christ de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette nostalgie de faire l'unité de tout le genre humain, en dehors de Dieu, on n'y arrivera jamais. De toute façon, en dehors du Christ, on n'y arrivera jamais. En dehors de Marie, on n'y arrivera jamais. Voilà. Alors, c'est uniquement les pauvres, comme dit Bergson, et les mystiques qui peuvent réaliser l'unité du genre humain. Uniquement les pauvres, les humbles, les effacés, les silencieux et les mystiques. Bergson. C'est pas les connaissants, les savants, les manipulateurs, ni le prince de ce monde.